Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Oussem Le Saïef, Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, il est 20h03, vous êtes sur RMC. Merci, merci d'avoir laissé votre apéro virtuel de côté ce soir pour un soir et pour mettre RMC et sa mobilisation générale 20h-22h. Votre nouveau rendez-vous du week-end avec une première heure actu Covid, les dernières infos, les explications. Et puis à partir de 21h, on va essayer de mieux vivre notre confinement. Des conseils, des astuces pour tirer le positif de cette situation. Vous le verrez, il y en a. Et pour ça, je suis accompagné de l'expert en positivité d'RMC, Oussem Le Saïef. Salut Oussem.
Salut Thibaut, bonsoir à tous. Et oui, une heure pleine de rire, de bienveillance, des chroniques, des invités. Le héros du jour à 21h05, Cyril Dumoulin, gardien de but de handball à l'origine d'une cagnotte qui a récolté plus de 300 000 euros en faveur du personnel hospitalier. On aura aussi Denis Brognard, le célèbre présentateur de Koh-Lanta, qui nous expliquera le carton d'eau audience de là. Son émission. Et puis, le fameux A de Denis Brognard. Et puis, un peu après 21h45, avec nous, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, tout juste nommé vice-président de la Fédération internationale de rugby, le World Rugby.
Et on vous attend évidemment au 32-16. Venez partager cette soirée avec nous. Mais d'abord, vous le savez, à 20h, toute l'actu autour du virus. Les États-Unis ont-ils trouvé le remède contre le Covid-19? Le Remdesivir a été autorisé en urgence outre-Atlantique pour traiter les malades. Ce médicament est-il efficace? Est-il utilisé en France? Le professeur Gilbert Deray nous éclaire dans un instant. Rendez-nous la mer. La Bretagne lance un appel pour libérer les plages dès le 11 mai, ce qui n'est pas prévu par le gouvernement pour l'instant. Même appel en Île-de-France, mais concernant les forêts cette fois.
C'est compliqué pour la mer.
La mer et ça m'étonne, c'est bien. Les maires de Pleumeur et de Saint-Germain-en-Laye seront sur RMC à 20h30. Mais d'abord, l'actu chaude, l'actu de l'après-midi. Bonsoir, Lucas Vevinois.
Salut Thibaut, salut Oussem, salut Lucas.
Il y a eu plein de noms difficiles, c'est sur le plus facile de tous, Vinois, que j'hésite, c'est terrible. Le gouvernement, Lucas, a présenté cet après-midi en Conseil des ministres le texte prévoyant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Concrètement, quelles conséquences aura ce projet de loi sur notre quotidien?
En première précision importante, et beaucoup de Français se posent la question, la limite de déplacement dans un rayon de 100 km sera effective, mais sans contrainte départementale ou régionale. Cela veut dire que si votre département est rouge, vous pourrez quand même vous rendre dans un autre département, quelle que soit la couleur verte ou rouge. L'important, c'est de bien respecter les 100 km. En revanche, les frontières intra-européennes ne seront pas ouvertes le 11 mai. La réouverture sera progressive, a prévenu Christophe Castaner. Autre mesure importante, Olivier Véran a annoncé, le ministre de la Santé, annoncé que toutes les personnes voulant rentrer sur le territoire français devront observer une période de quatorzaine. Cette mesure s'applique aux individus qui viennent de l'étranger, mais aussi à ceux en provenance de départements marins comme la Corse. L'isolement, en revanche, ne concernera que les personnes diagnostiquées positives au Covid-19.
Une dernière annonce, enfin Lucas.
L'application Stop Covid ne sera pas prête au 11 mai, a répété Olivier Véran. Si elle devait être opérationnelle dans les prochaines semaines, il y aurait un débat à l'Assemblée nationale. En revanche, le ministre de la Santé est revenu sur la collecte de données des personnes malades avec trois niveaux de tracing. Le premier niveau, c'est le premier cercle des cas contacts de la personne atteinte. Le deuxième niveau, il sera géré d'ailleurs par l'assurance maladie. Le but sera d'enrichir la liste de contacts de la personne malade. Et enfin, le troisième et dernier niveau concerne les clusters ou les zones où le virus circule facilement.
Merci Lucas Vinois.
Merci Lucas.
Lucas Vinois. Et bonsoir Catherine Hill.
Bonsoir.
Vous
Catherine
êtes épidémiologiste. Merci d'être en direct sur RMC. Alors, on veut revenir avec vous sur l'annonce d'Olivier Véran aujourd'hui concernant en particulier le traçage des personnes testées positives. Sujet ô combien nébuleux, mais très important. Et ça ne sera finalement pas avec l'application Stop Covid qui a tant fait parler ces dernières semaines, mais avec plusieurs niveaux, donc les médecins, puis l'assurance maladie et les agences régionales de santé. Catherine Hill, est-ce que selon vous, c'était la bonne méthode ou en tout cas la moins pire selon les circonstances, celle qu'a annoncée aujourd'hui Olivier Véran?
Le problème, c'est que les gens sont contagieux avant d'avoir des symptômes et certains sont même contagieux en n'ayant jamais de symptômes. Donc, le système qui consiste à trouver les gens qui ont des symptômes et ensuite à chercher ceux avec qui ils ont été en contact, de toute façon, rate une bonne partie du problème. Par ailleurs, on va chercher les contacts, mais il faut aller très vite parce que la mauvaise nouvelle aussi est que c'est un virus très contagieux et les gens sont contagieux avant d'avoir des symptômes. Et pendant la moitié des contagions se font avant l'apparition des symptômes. Donc, il faut trouver le maximum de contacts très vite, parce que ces contacts qui sont eux-mêmes contaminés sont eux-mêmes en train d'en contaminer d'autres. Donc, c'est une course contre la montre. Et pour cette course contre la montre, une usine à gaz avec des gens, l'assurance maladie, etc., je ne le sens pas très bien. Ça va prendre du temps, tout ça.
Catherine Hill, une petite question. Vous parlez de très vite, juste pour avoir une image, une idée concrètement. Qu'est-ce que ça correspond pour vous, très vite? Comment on peut situer le très vite?
Mais si vous mettez 3 jours pour localiser les contacts d'une personne, ces gens-là en ont déjà contaminé d'autres.
Mais est-ce qu'il y avait une meilleure solution que ce qui a été proposé aujourd'hui?
Mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché en Corée du Sud? Qu'est-ce qui a marché à Taïwan?
Donc, ils ont fait effectivement, ils sont passés par une application de tracking, donc c'est ce qu'on aurait dû faire en France, selon vous.
Mais si on ne fait pas ça, on ne va pas trouver assez vite les cas qui sont indétectables si on ne teste pas massivement la population. Possibilité, c'est de tester massivement la population. Et ça, à mon avis, c'est possible si on fait des tests groupés. On prélève 60 personnes, on mélange les prélèvements et on cherche s'il y a du virus dans l'ensemble de ces prélèvements.
Est-ce que ça veut dire que, parce que là vous êtes en train de nous annoncer, Catherine Hill, épidémiologiste, que ça sert à rien, c'est ça?
Non, ça sert pas à rien. Si vous enlevez, si vous repérez la moitié des cas, ça réduit le problème, mais ça ne résout pas le problème.
Une question concernant les médecins généralistes qui, selon le plan proposé par le ministre, seront au premier plan. Eux, ils seront sur la première ligne. Est-ce qu'on pourrait aussi faire face à une surcharge de travail pour les médecins généralistes qui, au-delà de la consultation, devront aussi remplir tout un tas de formulaires pour traquer leurs patients?
Bien sûr, c'est extrêmement difficile. C'est un travail d'enquêteur. On voit bien en Corée du Sud, on voyait bien que cette personne dont on s'est aperçu qu'elle avait des symptômes. Elle a été il y a 3 jours avant à la pharmacie, puis au supermarché, et puis ensuite elle est allée dîner chez des amis, et ensuite elle a croisé des amis dans la rue, ils ont resté 5 minutes à discuter. Voilà. Comment est-ce que le médecin généraliste peut reconstituer tout ça?
Alors, on essaye quand même, Catherine Hill, ce soir sur RMC, de voir du positif. Pour l'instant, vous ne l'apportez pas, mais on va essayer d'aller chercher avec vous. Est-ce que, même si on l'a bien compris, selon vous, cette méthode n'est pas parfaite, que vous auriez préféré utiliser le tracking sur une application comme ça a été le cas notamment en Corée du Sud, mais est-ce que cette méthode qui n'est pas parfaite peut-elle être quand même suffisante pour déconfiner les Français le 11 mai et éviter une éventuelle deuxième vague?
À mon avis, non. Je regrette de vous dire que non. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que tout le monde va être hyper performant et les gens vont rester quand même dans une espèce de philosophie de confinement et pas faire des grandes réunions, etc. Donc, si on arrive à se comporter pas trop mal, ça peut suffire de trouver la moitié des cas.
Du coup, Catherine Hill, je rebondis sur ce que vous dites. Vous êtes épidémiologiste et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a donné une interview aux Parisiens là ce soir il y a quelques minutes où il explique que la date de levée du confinement pourrait être remise en question. Cela dépend, je cite, du respect du confinement. Voilà ce qu'a dit le ministre de la Santé. Est-ce qu'au regard de ce que dit le ministre ce soir, de ce que vous nous dites par rapport au système de traçage, est-ce que ce serait une décision sage de décaler le confinement s'il y a encore trop de malades au 11 mai?
De toute façon, le 11 mai, ça va être très très juste parce que l'Institut Pasteur a estimé qu'il y aurait encore entre 1400 et 1900 personnes en réanimation, plus les 2000 ou 2500 personnes qui sont en réanimation de toute façon pour autre chose. Donc on va rester avec les services de réanimation à la limite de la saturation, puisqu'on a 5000 places de réanimation dans le pays. Donc si vous avez déjà 1900, ou moi je pense que ce sera plutôt 2000 personnes en réa pour le Covid, ça fait beaucoup. Le système va être déjà en tension.
Merci Catherine Hill. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, d'être venue apporter votre éclairage sur RMC. Bonne soirée, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir, il est 20h12. Les États-Unis ont leur traitement, Oussem. Donald Trump a annoncé hier soir que le Remdesivir était autorisé pour être administré à des malades du Covid-19 aux États-Unis. Une étude menée par les instituts de santé américains affirme que ce médicament écourte de plusieurs jours la durée de rétablissement des patients atteints du coronavirus. Direction New York, retrouvez en direct Cédric Fesch, le correspondant de BFM TV. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Bonsoir Cédric.
Expliquez-nous comment la décision a été prise hier soir, décision un peu surprise quand même.
Faut revenir d'abord à l'histoire du Remdesivir. C'est l'histoire de la résurrection d'un projet de médicament qui a jamais prouvé son efficacité sur aucune maladie et qui avait été abandonné. Il avait été développé pour lutter contre le virus Ebola, mais il n'a jamais eu de résultat assez probant. Il n'a jamais été approuvé pour aucune maladie avant que le coronavirus n'apparaisse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette épidémie, encore sans médicaments, tous les pays ont débloqué des fonds importants sans être sûr que ce soit rentable, parce qu'il faut bien chercher une solution. Et que le pays qui la trouvera remportera une victoire énorme, à la fois médicale et politique. Et c'est comme ça que des chercheurs américains ont pu reprendre des études sur le Remdesivir, entre autres, et ils ont pu le faire parce qu'ils ont eu des subventions gouvernementales et plus seulement le budget recherche et développement des labos. Et on s'est aperçu lors d'un essai que les patients qui recevaient le traitement par Remdesivir récupéraient plus vite, 11 jours au lieu de 15 jours. Par contre, le taux de mortalité n'est quasiment pas changé. C'est le docteur Anthony Fauci qui dirige l'institut, qui a mené l'essai. Vous savez, le docteur Fauci, c'est ce monsieur de 79 ans qui est dans la cellule de lutte contre le coronavirus et qui est souvent à côté de Donald Trump lors des points presse. Oui. Et le docteur Fauci a déclaré dans le bureau ovale mercredi que le Remdesivir avait un effet clair et significatif. Et la nouvelle étape franchie hier, c'est que la FDA, qui autorise la commercialisation des médicaments aux États-Unis, elle a validé l'utilisation du Remdesivir contre le Covid-19, mais en urgence. Ça veut dire que le Remdesivir, il n'a pas été examiné avec le même niveau d'exigence que d'habitude. Alors, il y a beaucoup de défiance par rapport au Remdesivir. D'abord parce que les bénéfices ne sont pas énormes, mais c'est une piste. Et puis parce que Donald Trump, il a d'abord fait la promotion de la chloroquine avant, qui a émergé comme une solution indépendante des labos. Et les électeurs trumpistes, par exemple, ils ont été séduits par cette solution qui n'est pas des élites. Et puis, on a appris que le laboratoire américain Gilead a augmenté son budget lobbying de 1,8 million à 2,4 millions entre janvier et mars. C'est pile le moment où le Congrès votait les subventions pour les laboratoires.
Cédric Fesch, correspondant BFM TV à New York, est avec nous. Cédric Fesch, vous êtes, vous, sur place aux États-Unis. Le traitement est choisi. Maintenant, la question est de savoir comment ce médicament va être déployé et quelles sont les personnes qui vont bénéficier du traitement en priorité.
Alors, le laboratoire Gilead, il va donner 1,5 million de doses de Remdesivir. Ça doit permettre de traiter au moins 140 000 patients. Ces doses, elles seront déployées en priorité dans les hôpitaux des villes les plus touchées par l'épidémie. Ce sera coordonné par le gouvernement fédéral. Et puis, les médecins auront le droit donc d'utiliser ce médicament en intraveineuse sur des malades graves du Covid-19 et qui sont hospitalisés et même, on va dire, plus ceux qui ont besoin d'oxygène et qui sont, par exemple, sous assistance respiratoire. Et c'est un traitement qui va durer 5 jours. Alors, c'est pas la première fois que la FDA autorise en urgence l'utilisation d'un médicament. Ça a déjà été le cas dans le passé contre le paludisme et plus récemment pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine le 28 mars. Mais la FDA avait ensuite lancé une alerte parce qu'elle avait reçu des rapports qui lui signalaient des problèmes sérieux de rythme cardiaque avec la prise de chloroquine. Ça veut dire que comme pour la chloroquine, le Remdesivir va être suivi de très près.
Cédric Fesch, en direct de New York pour RMC. Merci Cédric et bon après-midi.
Merci à vous.
Et oui, 14h à New York.
Quel calcul, évidemment. Rapide.
Bonsoir Gilbert Doré.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur RMC, il est 20h16, vous êtes médecin-chef à la Pitié-Salpêtrière, merci d'être avec nous. Vous l'avez entendu, hein, l'agence américaine du médicament qui autorise depuis hier soir le médicament en urgence, le Remdesivir. On en parlait un petit peu avec notre correspondant il y a un instant, mais l'aspect médical, Cédric Fesch en parlait, mais c'est quoi ce médicament? C'est pas un médicament miracle, si?
Non, surtout, voilà, ça c'est un point important, pour pas que les gens croient qu'on a trouvé la solution. C'est censé être un médicament qui tue le virus, puisqu'en fait il va s'opposer à sa multiplication, s'incorporant dans son ARN ou dans son ADN. C'est effectivement un médicament qui a échoué contre Ebola, qui était parti dans les poubelles de l'histoire des médicaments et qu'on est en train de faire revenir. Donc il faut bien qu'on dise à tout le monde que ce n'est pas un médicament miracle et qu'en particulier il ne change rien à la mortalité. Alors, on a quoi? On a un bénéfice de 4 jours sur l'hospitalisation chez des patients qui sont plutôt au départ graves. C'est d'ailleurs un paradoxe qu'on a beaucoup dit, et c'est vrai que ces médicaments antivirus devraient être administrés plus tôt que ces stades-là. Et on vit une période un peu particulière où se mélangent l'économie, la politique, la médecine, la science, qui fait que tout est un peu bouleversé. On va essayer de faire simple, au mieux, avec le remdesivir, au mieux, on a un raccourcissement de la durée d'hospitalisation de quelques jours. Pour l'instant, chez des patients qui sont plutôt graves, et n'oublions pas qu'il y a une autre étude qui est parue exactement au même moment, dans le Lancet, et qui disait qu'il n'y avait pas d'efficacité. Alors, oui, il y avait moins de patients, oui, les CA n'ont pas pu être finis, néanmoins, ça reste des résultats que je vais qualifier de modestes. Donc, ça ne va pas changer la donne de l'épidémie, ce n'est pas ça qui va nous permettre de contrôler l'épidémie. Au mieux, ça va être un agent thérapeutique qui va s'ajouter au reste. Ce qui va être plus intéressant, c'est de savoir si celui-là ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont en essai thérapeutique, il y en a plein dans le monde. Si on les administre beaucoup plus tôt, ont une efficacité. Rappelons également que le remdesivir dans l'essai, non pas américain mais chinois du Lancet, n'a eu aucun effet sur la charge virale. Donc un petit effet, probablement une très forte pression politique qui fait qu'il faut vraiment faire des annonces, pas une révolution.
On comprend bien votre pensée, professeur. On le rappelle, le remdesivir permet donc un rétablissement écourté de 4 jours, passant de 15 à 11 jours, c'est ce que vous précisiez. Moi j'ai une question, on sait que c'est un médicament injectable. Quelle est la question du coût? Est-ce que en France, par exemple, on pourrait imaginer, si le produit est efficace, pourquoi pas un traitement avec le remdesivir dans les prochaines semaines?
Bien entendu, c'est pas qu'il y a un coût qui est important, je crois qu'il est à 800 dollars l'injection, donc évidemment c'est élevé. On a des médicaments, je vous rappelle, oncologiques qui coûtent bien plus cher que ça. Le coût dans cette affaire, je ne crois pas que ce soit vraiment le problème, même si évidemment je préférerais un médicament qui coûte beaucoup moins cher. La vraie question, c'est l'efficacité. Payer très cher un médicament qui vous réduit le risque de mortalité d'un cancer du poumon, par exemple, bon, bah, écoutez, ça ne me dérange pas. Payer très cher pour un médicament qui aurait peu ou pas d'efficacité, ça va me déranger. Je crois surtout que ce qui va être intéressant, ça va être de suivre les autres études qui sont en cours et qui vont étudier l'effet de ce médicament à un stade beaucoup plus précoce de la maladie, c'est-à-dire dès le début des symptômes. Par exemple, je vais vous rappeler que le remdesivir a été donné en moyenne 10 jours après le début des symptômes. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est de donner au tout début, voire même en préemptif, comme c'est en train d'être fait pour d'autres médicaments, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, sont très exposés, n'ont pas encore la maladie, ou des gens qui sont découverts contact, on a le virus tout de suite, le premier jour. Donc, en l'état, ce n'est pas le coût qui va être un problème, c'est son efficacité.
C'est un médicament, si je comprends bien, Gilbert Deray, professeur, vous ne l'enterrez pas non plus. Vous demandez à voir et à ce qu'il soit testé en étant administré plus tôt, mais pourquoi pas un jour avoir du remdesivir en traitement, quoi.
Moi, ce qui m'intéresse dans le remdesivir, dans tous les autres, et il y en a un autre, un japonais, que je trouve plus intéressant, qui s'appelle le favipiravir, et même pour les doxycycloïdes, ce qui m'intéresse, c'est quoi, en fait? C'est qu'on ait des études correctement faites. Et que ces études faites avec un groupe contrôle qui puisse permettre d'avancer sur ça marche pas, quelle dose soit faite. Et après, on va regarder à l'arrivée si ces médicaments sont efficaces ou s'ils sont pas efficaces. C'est compliqué, hein, la pharmacologie, les études cliniques, faut bien faire. Si on fait mal, on crée de l'incertitude et on perd du temps. Donc, remdesivir ou un autre, faites-nous les études correctes et montrez-nous que ça marche.
Professeur Gilbert Deray, vous êtes en direct sur RMC, il est 20h21. Je rappelle que vous êtes médecin-chef à la Pitié-Salpêtrière. On était il y a quelques minutes avec une épidémiologiste. On revenait avec elle sur les annonces du jour, le ministre de la Santé. Les annonces concernant le tracking, notamment, on a beaucoup parlé. L'application qui est donc enterrée, ce seront les brigades à plusieurs niveaux. Le médecin généraliste, l'assurance maladie et puis les agences régionales de santé qui seront chargées de tracer le parcours des malades. J'aimerais votre avis également sur ce système.
Alors moi, je l'ai entendu, hein, je l'ai écouté et je confirme. Premièrement, 50% des contaminations se font avant les premiers symptômes. Donc évidemment, aller chercher les contacts, c'est absolument crucial. Deuxièmement, je vais répondre à une question que vous avez posée, on a 24 jours pour trouver les contacts. Et donc si on met 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ce que je crains soit le cas, si on le fait manuellement, ça va être beaucoup moins efficace. Et puis également, ce qui me fait que demander au médecin généraliste de faire tout ça, ça me paraît difficile, si c'est impossible, parce que d'abord, ils vont être submergés des patients avec le retour, des patients que depuis 3-4 mois, on ne prend plus en charge, donc on est en train de les voir revenir là. Ah. Et c'est bien, je dis à tous les personnes qui ont des maladies chroniques ou revenez absolument, vous allez avoir des problèmes. Donc, nos médecins généralistes qui sont en première ligne sur Covid, mais d'avoir beaucoup de travail. Je ne les vois pas passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure à tracking. Donc, oui, je préfère une application numérique, mais ouais, bah, il faut être thématique, elle n'existe pas. Et non seulement elle n'existe pas, mais en plus, elle va devoir être battue. Et comme je vois venir les débats qu'il va y avoir, évidemment, qui sont importants, hein, keto, confidentialité, etc., ça va prendre des semaines et des semaines. Donc, dans l'attente, on va faire au mieux, on va faire des brigades, mais attention, il faut que ce soit très rapide.
Professeur Gilbert Doré est en direct avec nous, médecin chef à la Pitié-Salpêtrière. Pour résumer votre pensée, le tracking est nécessaire. Oui. J'aimerais revenir avec vous sur les ressources humaines. On parle par exemple de 5000 collaborateurs de l'assurance maladie qui seront sur le pont pour permettre ce tracking. 5000 comme ça, pour quelqu'un qui raisonne sur ce chiffre-là, ça peut paraître très peu pour l'échelle de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour aider ces gens à se mobiliser sur le terrain ?
Excellente question. Imaginez un instant qu'il y ait entre 1000 et 3000 nouveaux cas par jour. Vous imaginez ce que ça va représenter comme travail tout au long de la semaine. Donc évidemment, 5000, on va les avoir épuisés au bout de 3 jours. Oui. Ce qu'il va falloir faire, c'est assumer notre responsabilité tous individuelle sur cette épidémie. Je crois qu'on le fait déjà bien quand même. Hein. Moi, j'ai pas que de leçons à donner, mais on le sait bien depuis le confinement. Ça veut dire continuer ça veut dire porter des masques. Ça, c'est absolument capital, ne pas se presser les uns contre les autres, pas de faire de structure de groupe, et après tout, pourquoi on n'aiderait pas également, nous, dans notre réflexion sur les contacts ? Et gardons en tête que, puisqu'on risque d'être contaminé, gardons un petit chemin intellectuel dans notre tête en se disant, bon, voilà aujourd'hui qui j'ai vu, et en faisant une sorte de tracking personnel pour que, si cela arrivait, on puisse extrêmement rapidement dire à notre médecin, voilà qui j'ai vu aujourd'hui, et en limitant les contacts. Si on a vu 200 personnes, ça ne va pas. Si on en a vu 5, on va y arriver. Donc, c'est aussi à l'échelon individuel qu'on va se tracer sur le...
Professeur, vous parliez des masques. J'aimerais rebondir là-dessus avec vous. Vous avez posté un tweet il y a quelques minutes sur les masques qui, pour vous, et qui, selon vous, devront être gratuits pour tous parce que c'est une évidence médicale. Alors, on sait qu'il y a toute une interrogation lors de cette crise du coronavirus. On n'avait pas assez de masques. Aujourd'hui, on semble en avoir de plus en plus.
Voilà, la seule chose, c'est qu'il y aura un prix encadré.
C'est ça. Alors, comment on fait maintenant pour mettre ça en place et pour surtout donner l'accessibilité à ces masques ? On parle de grandes surfaces, de petits commerces.
Moi, je suis médecin, donc je vais raisonner en médecin. Hein. Le masque, il est efficace. Le masque, on nous dit qu'il est obligatoire. Le masque, il va protéger toutes les personnes à risque. Donc, s'il est obligatoire, à ce moment-là, il doit être évidemment gratuit. Et de plus, vous avez des millions de personnes qui vont avoir du mal à se l'acheter, parce qu'un masque, il n'en faut pas un. Alors, on va prendre les masques dits faits maison, hein, pas ceux chirurgicaux. Il vous en faut au moins deux dans la journée pour tenir 8 heures. Vous allez les laver le soir, il vous en faut deux autres, ça fait 4. C'est 4 minimum. Vous allez les utiliser un certain nombre de fois qui varient suivant les masques, donc vous n'allez pas pouvoir les garder habitables. Oui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se les offrir. Pourquoi imposer cet achat ? Et il y a quelque chose que... Alors, je ne suis une fois de plus que médecin, mais qui m'échappe, c'est que le coût, quel qu'il soit, il va être beaucoup moins important que les centaines de milliards d'euros qu'on nous annonce. Donc, si on calmait le débat, et si pour des raisons sociétales qui m'apparaissent comme médecin, une fois de plus évident, on arrêtait de discuter autour du masque, en disant qu'il va à 0,50 ou moins, ou ce que vous voudrez, et qu'on les distribue gratuitement. C'est un autre avantage, c'est qu'on permettrait de s'assurer de la qualité, qu'ils soient faits tous dans les bons circuits. Donc oui, je pense que c'est masque, c'est même, je vais vous dire, je pense que c'est un facteur d'apaisement.
Et pour conclure là-dessus, ce sera notre dernière question, professeur Gilbert Doré. Donc, ces fameux masques qui ne servaient à rien il y a 2 mois et qui seront obligatoires demain, vous nous confirmez que quand même, finalement, ils servent un peu à quelque chose ?
Alors, moi, je me suis mis clairement comme principe de ne pas prédire le passé, parce que pour commencer, ça veut pas dire que je vais regarder les nombreuses erreurs que j'ai aussi faites comme expert. Et donc, on a appris depuis 3 mois. Le meilleur expert dans le monde du coronavirus a 4 mois d'expérience. Et donc, ne jetons pas non plus la pierre à tous les experts et les autres qui ont dit des choses, parce qu'ils les ont dit à un instant T. Et la médecine, par définition, et là, en plus, elle évolue très vite. Donc, il est clair, maintenant, que les masques sont absolument nécessaires pour tout le monde. Ils ont terriblement manqué. Là, il y avait une faute aux soignants au début, médecins généralistes, infirmières à l'extérieur. Ouais. Ça, vraiment, c'était pas bien. Et maintenant, on a les travaux, on a les études. Il est clair que tout le monde doit porter des masques. Ça va être un facteur majeur du contrôle de l'épidémie. Faisons en sorte qu'on les ait.
Merci Gilbert Deray, merci beaucoup merci professeur d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Passez une excellente soirée. Il est 20h27, merci d'être avec nous. C'est Mobilisation Générale, on est en direct jusqu'à 22h. N'oubliez pas, on vous attend au 32-16, on compte sur vous pour après 21h. Voilà, notamment quand on parlera Koh-Lanta, journée de confinement.
On va se détendre un peu.
Voilà, on vous attend. Sachez que dans un instant, on va prendre la direction de la Bretagne. La Bretagne lance un appel pour libérer les plages, mais aussi la direction de l'Île-de-France. Parce que l'Île-de-France veut libérer ses forêts. Dans un instant, le maire de Pleumeur et celui de Saint-Germain-en-Laye en direct sur RMC.
RMC, Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Il est 20h29, on est en direct sur RMC, Mobilisation Générale. Dans un quart d'heure, Oussem, on parle chien.
Initiative lancée, et oui, depuis jeudi en France, pouvons-nous avoir des chiens renifleurs du Covid-19 comme nous avons des chiens formés à détecter des produits stupéfiants ou encore des produits explosifs? Élément de réponse dans quelques minutes avec Dominique Grandjean, chef du service vétérinaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Le déconfinement sera progressif en France à partir du 11 mai. En Bretagne, tous les voyants sont au vert. On l'a vu encore sur la carte dévoilée ce soir. On ne pourra pourtant pas profiter des 2700 km des côtes maritimes. L'État exclut la réouverture des plages. De nombreuses voix s'élèvent contre cette interdiction, parmi lesquelles celle de Ronan Loas, le maire de Pleumeur. Bonsoir Ronan Loas.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire.
Merci d'être avec nous ce soir en direct. J'en profite juste avant de vous interroger pour lancer un appel. En 32-16, vous nous écoutez, vous êtes sur le littoral. Appelez-nous.
Vous le regardez de loin déjà.
Voilà, déjà. Mais dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de retrouver la plage, la mer, très rapidement. Ronan Loas, pas de plage ni de sentier côtier jusqu'au début du mois de juin, au moins, a dit le gouvernement. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui a été dit?
Non, tout à fait. Alors, je peux parler et à titre personnel et pour la population, parce que les gens sont ici très unanimes. C'est vrai que vu de Paris, la Bretagne peut paraître comme une destination de vacances ou nos plages comme un lieu de repos ou sur lequel on irait poser sa serviette. Mais ici, c'est notre cadre de vie, c'est nos parcs, c'est nos jardins, et on en est privé alors que c'est au bout de chez nous en fait. Hein.
Ronan Loas, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur votre population. Quelles ont été les remontées? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelles sont les demandes, les principales demandes? Pourquoi on veut retourner à la plage tout simplement dans cette période-là pré-estivale?
Alors, je pense qu'il vaut mieux parler d'accès au littoral, puisqu'en fait, on a une espèce de ligne rouge qu'on n'a plus le droit de franchir. C'est l'estran, le chemin côtier. Si vous êtes en bord de mer sur le chemin côtier, j'ai des habitants qui se sont fait verbaliser alors qu'ils étaient sur un trottoir, mais qui est classé chemin côtier, ce qui n'est pas compréhensible. Mmh. Ils ne demandent pas d'aller à la plage poser leur serviette ou de se regrouper. Ils demandent de pouvoir faire du surf, du kitesurf, d'aller sur leur bateau et d'aller faire de la pêche en mer. Qui sont des activités qu'on ne peut pas juger à risque, parce que si vous êtes sur votre planche de surf, par nature, vous n'êtes pas en problème de distanciation sociale ou à moins de savoir si le virus est en train de nager à côté de vous, mais j'en doute un peu.
Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement, en n'autorisant pas le retour au littoral le 11 mai, veut juste éviter un afflux, par exemple, de Parisiens qui seraient tentés ou de gens qui habitent à moins de 100 km, si on respecte ce qui a été dit, et ben d'aller à la plage dès le 11 mai?
Alors, déjà, il faut rappeler que la règle des 100 kilomètres doit permettre, d'empêcher surtout l'afflux des Parisiens. C'est quand même le rôle de l'État et de l'État régalien de faire appliquer cette règle. La Bretagne, c'est quand même 2730 kilomètres de long pour 3,2 millions d'habitants. C'est-à-dire que si tous les Bretons allaient sur le bord de côte, ça serait un Breton toutes les 85 centimètres si on part sur une base de 5 mètres d'estran. Donc en fait,
il manque 15 centimètres pour avoir le mètre.
voilà, tout à fait. Non, mais ce qui veut juste dire que si on avait toute la population qui affluait sur notre littoral, on serait à la limite des règles de distanciation sociale. Bon, ça pourrait paraître stupide ce que je dis là, mais c'est juste pour dire que d'avoir un regroupement de personnes sur notre littoral, c'est juste oublier que en fait, on a une diversité de plages, de bords de côte, de côtes en rocher, et qu'on a le GR34, qui est comme le chemin côtier qui longe toute la Bretagne.
Qu'est-ce que vous désirez, vous, Ronan Loas? On le rappelle, vous êtes maire de Pleumeur, vice-président du conseil départemental du Morbihan. Quel est votre souhait pour une région comme la vôtre? Est-ce que c'est de tenter d'avoir un peu plus d'autonomie dans une prise de décision face à ce coronavirus? Est-ce que vous voulez essayer de lancer une initiative pour essayer de décider de vous-même, parce que vous connaissez la région plus que des habitants de Paris ou d'autres régions, par exemple?
En fait, c'est vrai que ce qu'on attend, c'est d'avoir une capacité au niveau local à juger ce qui peut être jugé comme dangereux ou pas. Si on autorise à Paris X personnes par rame de métro, et qu'on dit qu'il n'y a pas de risque, pourquoi dire que sur nos plages, moi j'ai 17 km de côte à Pleumeur, pour 18 000 habitants, comment on peut dire que d'être sur la plage, et on a des plages qui font pas 5 mètres de largeur, hein, vous imaginez bien la superficie que ça représente, en disant que c'est dangereux d'être sur une plage, mais c'est pas dangereux d'être sur le métro. Et c'est là-dessus que notre population comprend pas cette forme d'injustice, ou alors on ferme tous les espaces publics à Paris, les rues non commerçantes aux Parisiens.
Et c'est un argument mis en avant par la population bretonne. Hein. C'est ce qu'on voit souvent dans les appels avec le hashtag Rendez-nous la mer. On entend des Bretons dire ça. On entend dire il y a des plages quasi désertes le reste de l'année. C'est vrai qu'on a l'image de la Bretagne l'été, vous le disiez en introduction. Mais la plupart des Bretons mettent en avant des plages quasi désertes.
Tout à fait. Et si on parle des touristes, étant donné que les lieux d'accueil sont pour le moment fermés, on ne sait pas quelles seront les règles imposées à l'ouverture des bars, hôtels, restaurants, campings. À l'instant T, on ne parle que des Bretons. Honnêtement, nous, le littoral, le bord de mer, c'est là où on vit, c'est ce qui est au bout de notre jardin. C'est comme si vous interdisiez aux Parisiens de ne pas pouvoir voir la Seine et se balader sur les quais.
Alors, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans quelques instants, Ronan Loas, on sera avec un autre maire, le maire de Saint-Germain-en-Laye, et qui a un peu les mêmes demandes que vous, mais pour les forêts. Vous allez D'accord. voir dans un instant. Comme quoi, vous êtes pas aussi éloigné. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement ?
Non. Notre contact, c'est le préfet, qui s'est d'ailleurs montré plutôt ouvert. On a eu un échange entre les maires du Morbihan en audioconférence jeudi matin et le préfet du Morbihan qui a montré des signes d'ouverture. Le problème, c'est qu'on a un verrou au niveau national qui gère l'Île-de-France, mais ça, c'est pas nouveau, c'est pas que lié à la crise. Mais la crise accentue ce sentiment d'inégalité entre Français et on a l'impression qu'on subit le mauvais comportement de certaines régions. La préfète de région a jugé que la Bretagne avait été et les Bretons avaient été les plus respectueux des règles de confinement. Et c'est comme la représentante de l'État en Bretagne.
Tout à l'heure,
parce qu'elle était en Bretagne qu'elle a dit ça, c'est pour ça, monsieur le maire.
Oui, après, c'est pas le rôle souvent des préfets de faire plaisir aux Bretons, hein, je pourrais vous citer quelques exemples, mais c'est juste que si le représentant de l'État commence à poser des éléments rationnels, parce que l'élément rationnel, c'est le risque. C'est ça, on parle d'une crise sanitaire.
Bien sûr.
S'il y a autant de risques dans une rame de métro que sur une plage, bah, fermons aussi le métro.
Oui. Je veux revenir.
On parle de santé publique.
J'aimerais revenir avec vous, Ronan Loas, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au sport. Vous avez dit que on pourrait peut-être avoir des activités physiques, ça pourrait soulager moralement, en tout cas, au-delà du physique, les Bretons. Est-ce que ça serait pas une première avancée de demander la réouverture du littoral, ne serait-ce que pour les activités physiques dans un premier temps ?
Mais c'est totalement la demande qui est portée, que ce soit de ma part ou de notre président du conseil régional ou de président de département breton, c'est qu'on ne demande pas une plage statique, on demande une plage dynamique, une plage sur laquelle on peut marcher, une plage sur laquelle on peut prendre sa planche de surf, son kite et aller en mer. Ici, on fait autant de running que de vélo, que de pratiques de nautisme. Et comment expliquer au petit papy qui a son petit bateau de pêche plaisance dans notre petit port de Kerok à Pleumeur, qui ne peut pas utiliser son bateau tout seul entre l'île de Groix et Pleumeur pour aller pêcher du maquereau.
Allez-y.
L'image de rame de métro bondée. On ne peut pas défendre ces décisions-là. C'est pas possible.
Ronan Loas, je rappelle que vous êtes le maire de Pleumeur en Bretagne. Juste avant de vous remercier, je voudrais que vous restiez avec nous quelques instants parce que nous sommes avec un autre maire. En attendant, le maire de Saint-Germain-en-Laye, c'est un peu le carrefour des maires à 20h30. Exactement. Nous sommes avec Jean Leonetti, le maire d'Antibes, Juan-les-Pins. Bonsoir, Jean Leonetti.
Bonsoir.
Alors, est-ce que à Antibes, il doit y avoir pas loin de 1000 km par rapport à Pleumeur, est-ce que vous avez les mêmes soucis, les mêmes revendications que vos collègues bretons ?
On a les mêmes attentes, parce qu'il faudrait que l'organisation du déconfinement, il y ait une logique. La logique, c'est qu'il ne faut pas que les gens se regroupent. Mais on peut très bien avoir, comme je viens de l'entendre, une activité de voile, on peut très bien avoir une activité de canoë-kayak, on peut très bien aller nager, sans pour autant considérer qu'on prend un risque pour soi-même ou pour les autres. Le deuxième point, c'est que ça va être très difficile en juillet-août d'empêcher les gens d'aller sur la plage en famille. Ils vivent dans un système confiné, va faire très chaud, comme d'habitude. Comment on va faire pour empêcher les gens d'aller sur le bord de mer?
Pour l'instant,
on les autoriserait à aller
le gouvernement
à promenade et pas sur le bord de mer.
C'est jusqu'au 2 juin.
Il y a
une
activité économique. L'activité économique, elle n'est pas négligeable et on peut très bien organiser quelque chose en mettant des transats très éloignés les uns des autres, en faisant une restauration avec des éléments de sécurité. Mais il faut le dire à un certain moment, parce que les commerçants, ceux qui ont ces activités, ben, ils se préparent, ils ont de l'achat de matériel, ils ont de l'engagement auprès de leur personnel, et on ne peut pas leur dire la veille pour le lendemain, comme par exemple pour les pharmaciens, où on a dit la veille pour le lendemain qu'ils pouvaient vendre des masques.
Jean Leonetti, vous êtes un peu comme le maire de Plomeur, Ronan Loas, vous êtes donc pour la réouverture du littoral. J'ai une question très simple, essayons d'aller concrètement dans une pensée à quelques jours, quelques semaines. Comment on peut mettre en place une distanciation sociale qui est demandée par l'État? Comment concrètement elle va se mettre en place? Qu'est-ce qu'on fait en tant que maire aujourd'hui pour mettre en place ce type de distanciation sociale demandée?
Si vous me dites on va le faire dans une année habituelle, je vais vous dire c'est très difficile parce que les plages sont bondées dans cette période. Mais on va rentrer dans une saison estivale qui va quand même être en demi-teinte. Il ne va pas y avoir d'étrangers, il va y avoir probablement des déplacements qui vont être limités à l'intérieur même du pays. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des marquages qui font que les gens sont à distance les uns des autres. Et sur les plages concédées, les plages dites privées, c'est encore plus facile, il suffit d'écarter les matelas ou les transats. Donc je ne dis pas qu'il faut être laxiste dans ce domaine, je dis simplement que ça va être difficile d'empêcher les gens d'aller sur le littoral, et c'est dommage de les priver d'activités sportives, ludiques ou d'activités commerciales, alors qu'elles elles sont possibles dans des conditions de sécurité qui, à mes yeux, sont plus importantes que le métro à 5 heures, ou bien même des réunions ou des passages sur des voies ou des promenades qui sont quelquefois bondés.
RMC, il est 20h40, c'est Mobilisation Générale. Nous sommes en direct avec Jean Leonetti, le maire d'Antibes, Join-les-Pins, également Ronan Loas, maire de Plomeur en Bretagne. Dernière question à vous deux. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que on imagine que ça concerne toute la côte du nord au sud de la France, un regroupement, que les maires joignent leurs demandes, joignent leurs forces pour tenter de faire changer d'avis le gouvernement?
Ben, je pense qu'il y a un moment où le bon sens va s'imposer. Alors malheureusement, le gouvernement, généralement, il dit non et puis brutalement, il dit oui. Et donc, on n'a pas le temps de travailler l'ensemble de ces sujets. On a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de faire des réunions de travail. Et puis, j'ai constaté quand même que le préfet du Var, il dit qu'il n'envisage pas que le littoral soit fermé. Donc, ça veut dire qu'au niveau préfectoral aussi, il y a un certain nombre de personnes qui se rendent compte que c'est à la fois inutile et puis impossible à réaliser.
Ronan Loas, maire de Plomeur, votre avis sur la question ?
Oui, je rejoins l'argument de mon collègue. C'est vrai qu'à un moment, il faut faire confiance au local. Nous, en Bretagne, on a un grand avantage, c'est qu'on sait se réunir pour des causes qui nous paraissent justes. Et là, il y a un vrai sentiment d'injustice en Bretagne, particulièrement, parce que c'est le sujet que je connais, vis-à-vis de choix qui sont parisiens. Notre préfet dans le Morbihan s'est montré également très ouvert. Donc si le représentant de l'État au niveau local est capable de comprendre nos arguments, je ne comprends pas de Paris et entre quatre murs, ils n'arrivent pas à être un peu à l'écoute des attentes de nos citoyens. Et je crains que cet élément soit ingérable pour le gouvernement dans les semaines ou les mois qui arrivent, puisque l'injustice, plus toute la crise qu'on va avoir par le tourisme, par les pertes d'activité ou les privations de liberté de nos citoyens, se transforme en quelque chose qu'on n'arrive plus à gérer pour la suite.
Merci Ronan Loas, maire de Plomeur en Bretagne. Merci également à Jean Leonetti, le maire d'Antibes. Join-les-Points, d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée à vous deux. Il est 20h42.
Après la mer.
Quand il n'y a plus de mer, il y en a encore. Bonsoir Arnaud Péricard. Vous êtes le maire de Saint-Germain-en-Laye. Alors, pas de hashtag pour vous. Je rappelle, il y avait le hashtag rendez-nous la maire, lancé par les Bretons. Mais vous, une lettre au préfet de police de Paris. Vous demandez la réouverture aux promeneurs des espaces forestiers de votre ville. Je rappelle que Saint-Germain-en-Laye, le département est rouge sur la fameuse carte de France. Et donc, rouge, ça veut dire parc et jardin qui resteraient fermés au 11 mai.
Oui, alors je crois qu'il faut faire justement une distinction entre les parcs et jardins et un massif forestier. Moi, la forêt de Saint-Germain, c'est avec celle de Fontainebleau, puisqu'on a fait une démarche commune vis-à-vis du préfet de police avec le maire de Fontainebleau. Ce sont les deux plus grandes forêts en Ile-de-France. C'est le poumon vert de l'ouest parisien. C'est connu parce qu'il y a notamment le camp des Loges, le terrain d'entraînement du PSG qui est au cœur de la forêt de Saint-Germain. Et c'est 75% de notre territoire communal. Alors c'est compliqué après d'aller dire et d'aller expliquer à ses habitants que la principale zone où on peut se ressourcer, où on peut respirer, où on peut s'oxygéner, alors même que nous vivons dans un espace francilien urbain, parfois densifié, et bien que cet espace leur est interdit. C'est proprement inexplicable.
Une question très simple, puisque vous avez lancé, comme le disait Thibault, une lettre au préfet de police de Paris. Comment vous prenez la parole donc au nom de vos habitants, comment on peut adapter les forêts à la distanciation sociale? On revient toujours sur cette distanciation sociale, très demandée par le gouvernement, presque imposée même par le gouvernement. Comment, dans une forêt, on peut mettre en place une distanciation sociale?
Mais elle existe déjà à 3700 hectares, c'est énorme. Oui. Hein, moi, j'ai une ville qui fait environ un petit peu moins de... qui fait 50 000 habitants. Donc, même hors période de confinement, en temps normal, quand vous vous promenez dans la forêt, vous voyez des promeneurs, bien sûr, mais de toutes les manières, les gens sont à plus de 15, 20, 30 mètres, parfois les uns des autres, y compris dans les centres, dans les allées, il y a des chevaux qui sont là, il y a des piétons, il y a des marcheurs, il y a des joggeurs, il y a des cyclistes. Donc, cette distanciation, elle est déjà extraordinairement bien respectée, et elle serait d'autant plus... Moi, je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'intelligence collective et au sens des responsabilités des administrés. Ils en ont fait preuve au cours de ce confinement. Ce confinement a été, et je rejoins ce que disait Ronan, mon ami et collègue de Plumeur, c'est exactement le même cas. Hein. Les gens ont bien respecté le confinement, et ils sont sensibilisés et responsabilisés. On n'est pas obligé de les fliquer à chaque coin d'allée forestière non plus.
Alors après, on a vu Arnaud Péricard aussi, surtout en début de confinement, mais des images de Français qui continuaient à sortir, à aller se promener, des joggeurs. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même? Vous le disiez, la forêt représente 70% du territoire de Saint-Germain-en-Laye, que des Parisiens dans un rayon de moins 100 km se précipitent dans la grande forêt du coin, c'est-à-dire la vôtre, et qu'on se retrouve en grand nombre dans ces forêts.
C'est tout à fait possible. Et comment expliquer qu'une partie du bois de Boulogne soit ouverte et que la forêt de Saint-Germain, qui est à 10 km du bois de Boulogne, forcément, c'est difficile à justifier et expliquer. Encore une fois, je pense qu'il faut faire confiance aux habitants, il faut faire confiance aux promeneurs. Ils font preuve d'un grand sens des responsabilités. Il n'y a pas besoin que ça s'arrête. Au début, c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur. Mais vous savez, on ne met pas un pays de 65 millions d'habitants sous l'été noir en quelques heures, en quelques jours. Il a fallu du temps pour que tout le monde s'approprie cette distanciation sociale. Maintenant, je crois que c'est le cas. Je crois qu'une grande partie de nos administrés également se font au port et à l'usage du masque, même si ça n'est pas obligatoire. C'est pareil pour la distanciation sociale. Donc moi, les raisons qui m'ont été invoquées pour fermer et interdire aux habitants de la forêt de Saint-Germain, c'était pour des questions de sécurité, c'est pas pour des questions sanitaires. Or, il n'y a pas de problème d'insécurité au sein de la forêt de Saint-Germain.
Vous avez écrit au préfet de police, est-ce qu'il vous a répondu?
Alors, il ne m'a pas encore répondu, il a certainement beaucoup de choses à traiter. Mmh. J'y vais doucement, mais je rejoins ce que disaient mes collègues. Les préfets, là pour le coup, le préfet des Yvelines est quelqu'un qui est à l'écoute. On a réouvert nos marchés forains, on a réouvert 3 marchés ce week-end parce qu'on a su faire démonstration qu'on pouvait sécuriser, avoir un parcours sanitaire autour des étals avec les marchés et organiser des marchés. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Donc il faut qu'on soit dans ce dialogue. On co-construit avec nos préfets. Là, c'est le préfet de police de Paris, donc j'attends sa réponse.
Arnaud Péricard est avec nous, maire de Saint-Germain-en-Laye. Vous parliez de l'argument sécuritaire qui a été mis en avant par le gouvernement et par l'État lors de vos échanges. On sait qu'à Fontainebleau, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau, il y a eu de nombreux contrôles de police pour des gens qui s'étaient rendus en forêt. Est-ce que ça a été le cas aussi chez vous à Saint-Germain-en-Laye?
Oui, on a une partie de la garde républicaine à cheval à Saint-Germain-en-Laye, donc il n'est pas rare de voir des contrôles de brigades montées, de brigades équestres dans la forêt ou des équipages, soit de police nationale, soit de police municipale, aller dans la forêt. Mais vous savez, moi je préfère que la police, elle soit dans le centre-ville de Saint-Germain, à faire respecter un certain nombre de règles, à vérifier effectivement que les gens sont bien en déplacement dans le cadre des motifs qui ont été cochés sur leur autorisation de déplacement, et à veiller notamment à la distanciation sociale en centre-ville, qui est bien plus préoccupante selon moi, surtout après le 11 mai, qu'elle ne peut l'être dans la forêt.
Bon, et puis Arnaud Péricard, secondaire, mais vivement aussi que le camp des Loges rouvre, hein. On est d'accord.
Eh bien, vivement le camp des Loges. Il fut un temps, vous savez, où les joueurs du PSG
allaient régulièrement en début de saison faire leur footing dans la forêt de Saint-Germain. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Ronan, parce que le centre d'entraînement des Merlus est à Plomeur, oui. et les féliciter pour la et très
oui.
belle saison.
Et oui, parce que Lorient ouais. qui monte en Ligue 1.
Exactement, bienvenue à eux en Ligue 1, avec Pélissier.
Et félicitations aussi à vous, Arnaud Péricard, parce que le PSG est champion. Du coup. On avait un léger champion. Doute, mais finalement, c'est bon, Paris est champion. Merci Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain. Merci. On l'aide d'avoir été en direct sur RMC. Il est 20h48, dans un instant, on s'intéresse à nos amis les bêtes. Et si les chiens détectaient le coronavirus après la drogue ou les explosifs, nos amis à quatre pattes sont-ils bientôt capables de repérer des malades du Covid? On en parle dans un instant avec Dominique Grandjean. Il est chef du service vétérinaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et il lance un essai. À tout de suite.
RMC, mobilisation générale, plus fort ensemble.
Oussem Le Saïef, Thibaut Giangrande.
Il est 20h50, on est en direct sur RMC. Oui, mobilisation générale, même le week-end. Oussem, c'est le nouveau rendez-vous d'RMC, 20h, 22h. On traite de toute l'actualité du Covid-19 entre 20h et 21h. Et puis, après 21h, on bascule sur une autre émission, presque. C'est le confinement. On s'intéresse au confinement. Comment mieux vivre le confinement? Alors, des astuces, des conseils, ça peut aller des jeux vidéo, aux séries. On vous attend d'ailleurs au 32-16. Et puis, on lance quelque chose, justement, ce soir. On lance le match des confinés. Voilà, vous allez venir affronter, appeler le 32-16 chaque soir du week-end. Un journaliste d'RMC qui va vous détailler en 30 secondes le meilleur moment de sa journée. Voilà, aujourd'hui, c'est Nicolas Paul Orsi, notre correspondant à Bordeaux. Il est confiné, évidemment, comme tous les Français, tout le monde est confiné. En 30 secondes, il va nous raconter à 21h. Le meilleur moment de sa journée. On vous attend, vous, au 32-16. Venez défier notre journaliste. Venez nous dire que vous avez passé une meilleure journée. Venez nous donner vos conseils. On vous attend au 32-16. Mais à 20h51, on s'intéresse à cet espoir, peut-être, dans la lutte du coronavirus. Les chiens détecteront-ils bientôt le coronavirus? Bonsoir, Dominique Grandjean.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service vétérinaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Alors, racontez-nous ce que vous êtes en train de faire en ce moment depuis quelques jours avec vos chiens.
Alors déjà, sur ce coup-là, je suis surtout professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, puisque c'est un projet de l'école vétérinaire. Mmh. Et en fait, on est parti d'un projet plus global qui s'appelle Nosaïs, qui est un projet de développement du chien de détection médicale. Et lorsque le Covid-19 nous est tombé dessus, instantanément est revenu le fait que des chercheurs américains de l'université d'Alabama, il y a quelques années, avaient réussi en fait à former des chiens à diagnostiquer une maladie chez les bovins qui s'appelle la maladie des muqueuses uniquement par l'olfaction de ces chiens. Et c'est d'ailleurs un système qu'ils utilisent maintenant couramment en Alabama et dans le Mississippi. Donc on s'est dit, après tout, pourquoi pas, puisque un virus génère une effluve spécifique lorsqu'il passe sur un bovin, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas sur un humain? Donc ça, c'est le constat de départ, ou l'idée de départ. Ensuite, il a fallu réfléchir à ce que pourrait être la typologie de prélèvement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque potentiel de contamination pour les intervenants, pour les opérateurs. Alors déjà, pour le chien, il n'y a pas de risque, puisqu'il n'est pas espèce sensible, ça c'est parfaitement démontré, donc il ne peut pas être malade et il ne peut pas transmettre le virus.
Ah, juste pardon, je vous coupe deux secondes. Est-ce que c'est propre au chien? Parce qu'on a dit longtemps ça de tous les animaux et on a appris hier qu'un chat avait été détecté positif. Ouais.
On n'a pas dit longtemps ça de tous les animaux. On sait que les animaux comme les furets, par exemple, peuvent être sensibles. On sait que tous les mustélidés, c'est-à-dire tout ce qui est souris et compagnie, le sont. Et les chats, il y a eu le tigre du zoo de Brooklyn, effectivement. Il y a eu quelques chatons. Et puis, justement, à l'école vétérinaire d'Alfort, avec une publication qui est sortie hier, il y a un chat qui s'est révélé être à la fois malade et porteur et excréteur. Bon, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais ça reste quand même rarissime. Mais c'est propre au chat. Chez le chien, ce n'est pas du tout le cas. Donc concrètement, après choisir le type de prélèvement, il y a un liquide biologique dans lequel on ne retrouve pas de virus, c'est la sueur. Et donc on fait prélever par les médecins ou les infirmières en hôpital avec toutes les conditions administratives qui vont tout bien pour ce type de protocole. De la sueur sous les bras, donc de la sueur axillaire, parce que sous les bras, il n'y a pas non plus beaucoup de chances de contamination, sauf si les gens vont souffler sous les bras, mais on fait rarement ça quand même.
C'est pas naturel.
Et donc ça, on va comparer en fait des prélèvements positifs à des prélèvements négatifs. Donc les chiens vont être formés dans un premier temps à travailler sur ce qu'on appelle des lignes de détection. C'est une méthode qui est très employée dans le domaine de la détection des explosifs pour former les chiens. Donc, qu'il est un peu moins chez les pompiers parce qu'on recherche à la base des personnes égarées ou ensevelies sous des combles. Donc, il faut reformer les chiens à ce type d'approche qui prend quelques jours. Ensuite, on va faire mémoriser une odeur de patient positif et voir si on a une différence de comportement du chien vis-à-vis de patients négatifs. Ça, c'est la première grande inconnue, c'est est-ce qu'il y a une odeur spécifique chez les personnes qui sont porteuses du virus SARS-CoV-2.
Dominique Grandjean, j'aimerais revenir avec vous parce que c'est quand même important ce que vous dites sur l'odeur. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple bovin aux États-Unis, donc il y a une odeur qui a été détectée. Alors nous, on dit qu'à l'échelle d'être humain classique, on dit qu'on ne peut pas sentir le coronavirus, on ne le voit pas, il odore. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'un chien peut sentir l'odeur du coronavirus.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Le virus en lui-même, il n'a pas d'odeur, ça c'est clair. Par contre, le passage du virus dans l'organisme est susceptible de générer des molécules, ce qu'on appelle des métabolites, qui peuvent ressortir par les liquides biologiques et qui peuvent ressortir, en l'occurrence, par la sueur, par la salive, par les larmes, par les excréments, par l'urine. Le virus, lui, il peut ressortir par toutes les voies, sauf la sueur. Donc, ce qu'on recherche, ce n'est pas le virus, c'est la trace de la présence du virus, ce qui est un petit peu différent.
Oui.
Et à partir de là, c'est en comparant des gens dont on sait qu'ils sont positifs parce qu'ils ont des symptômes et qu'ils sont PCR positifs vis-à-vis de négatifs, on aura la réponse. Dans un deuxième temps, il faudra valider tout ça, c'est-à-dire que les opérateurs ne sauront pas, les maîtres chiens ne sauront pas si les prélèvements sont positifs ou négatifs, et puis on va compter en fait les marquages que font les chiens et voir si on a éventuellement des faux positifs ou des faux négatifs. C'est ce qu'on appelle la sensibilité ou la spécificité. Si les résultats sont bons, c'est-à-dire au-delà de 90%, on va dire, actuellement les PCR sont fiables à 70%, donc on serait au-dessus, on passera non plus à l'étape du prélèvement, mais à l'étape du chien qui se met devant une personne et puis qui va simplement respirer l'odeur de sa personne et s'asseoir devant elle si elle est positive et ne pas le faire si elle est négative. Voilà.
Vous testez pendant combien de temps? Enfin, au bout de combien de temps on peut espérer avoir un résultat de cette expérience?
Je pense qu'on saura vraiment si on a des chances de réussite dans une dizaine de jours. Les essais ont démarré donc sur Alfort. Ils ont démarré également en Corse avec les pompiers de Corse et la gendarmerie. Ils ont démarré au Liban avec l'université franco-libanaise de Beyrouth. Donc il va nous falloir quand même quelques jours pour être sûr déjà qu'on a bien une odeur spécifique. Et après, c'est l'étape de validation. Donc si on va au bout du protocole pour ce qui est validation, on va dire que dans 3 semaines, on devrait être capable de dire on peut apporter un outil supplémentaire ou pas.
Et vous êtes déjà en contact avec les autorités sanitaires pour éventuellement intégrer les chiens dans un
établissement? Non, sincèrement non. J'attends qu'elles nous contactent. Je pense que c'est pas nécessaire de. Enfin, on voit bien qu'actuellement ils ont quand même beaucoup de choses à faire et qu'il faut les laisser réfléchir. Donc moi j'ai pas envie de. Qu'on emmerde le monde, hein, c'est pas le problème. On fait tourner un protocole de manière très carrée, et puis on fournira les résultats, on publiera les résultats dans des revues scientifiques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Après, c'est les autorités qui décideront. Je pense que ça peut amener un plus quand on voit le nombre de tests PCR qui seront disponibles en début de confinement. On peut envisager que des chiens ainsi formés deviennent une sorte de pré-test finalement et qu'on ne teste derrière que les gens qui soient positifs aux chiens. Ça peut servir à l'entrée dans les aéroports ou à la descente des paquebots. Ça peut servir également avec des municipalités qui pourraient avoir des chiens comme ça. Et surtout, ça va servir, si on donne le mode d'emploi, aux pays qui n'ont pas les moyens d'avoir toutes ces machines qui permettent de faire les diagnostics. C'est déjà le cas dans certains pays d'Afrique où le chien est utilisé pour des diagnostics de malaria ou de tuberculose avec des résultats qui sont très supérieurs à tout ce qu'on connaît en laboratoire.
Ok, et ben on suivra ce test avec grande attention. Dominique Grandjean de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, merci d'avoir été en direct sur RMC. Bonne soirée.
Merci à vous.
Et à très vite. Il est 20h59. Mobilisation générale continue en direct jusqu'à 22h. Évidemment, on vous attend au 32-16. Venez affronter notre journaliste RMC, Nicolas Paolorsi. Qui sera le meilleur confiné? On vous attend au 32-16, à tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble. RMC Mobilisation Générale. Plus fort ensemble.